Bonjour, je suis Yann Verling, je suis vice-président de la région Île-de-France à la transition écologique et je suis engagé pour l'environnement depuis une trentaine d'années. Vous écoutez un nouvel épisode de Concret, le podcast qui met en lumière des solutions pour une écologie positive. Je vous propose de partir à la rencontre d'un faiseur de solutions, plutôt une faiseuse de solutions aujourd'hui. Bienvenue, on est parti pour une petite demi-heure d'échange avec Clarisse Merlet qui est présidente de Fabrique. Bonjour Clarisse.
Bonjour.
Je vais peut-être vous demander tout de suite de vous présenter rapidement qui vous êtes. Concrètement, qui vous êtes?
Alors, je suis Clarisse, je suis effectivement la présidente de Fabrique et aussi la fondatrice. Donc, j'ai fondé cette société il y a presque 7 ans maintenant et on fait des briques en textile recyclé à Paris.
On va revenir sur ce que vous faites, mais on va peut-être s'intéresser un tout petit peu à vous. Comment, d'où vous venez, quelle est votre formation, comment vous êtes arrivé à cette idée de faire des briques en tissu?
Alors d'où je viens, je suis née en Vendée, je suis née en France, ensuite j'ai fait mes études à Paris, puis à Rouen, puis de nouveau à Paris, et j'ai commencé à développer des briques en carton au départ à Rouen pendant mes études d'architecture. Et juste avant, j'avais fait des études d'art plastique. Donc finalement, je pense que l'architecture et les arts plastiques se sont mêlés pour passer à une brique en textile et j'en ai fait une société.
Alors, donc maintenant, parlons de ce que vous faites. Donc aujourd'hui, vous avez créé un produit qui est cette brique. Concrètement, elle ressemble à quoi cette brique? Parce que là, on est malheureusement dans un podcast, on peut pas voir les choses. Mais décrivez-nous ce que vous fabriquez.
L'objet. Alors donc c'est une brique en textile, donc on vient déchiqueter le textile. Donc c'est plein de petits morceaux de textile. On trie par couleur avant de broyer. Donc on a plutôt des coloris orange, rose, vert. On a 9 coloris en tout qu'on peut décliner en terrazzo ou dégradé en ajoutant plus ou moins de blanc. Et in fine, on se retrouve donc avec une brique qui fait 20 par 10 cm, qui est assez mouchetée puisqu'on rajoute pas du tout de colorant, donc c'est vraiment les petits morceaux de textile qui créent la couleur. Et c'est compressé très fort pour faire un matériau assez dense, pour être résistant et faire de l'aménagement intérieur avec.
Voilà, alors peut-être que on va tout de suite venir au fait que l'objet est intéressant, mais pourquoi vous avez voulu faire ça? En quoi c'est un sujet, parce que là, moi, je suis vice-président à la transition écologique, et donc ce qui m'intéresse, c'est ce qui participe de la transition écologique. Alors, en quoi votre brique participe de la transition écologique? En quoi elle est écolo, cette brique?
Oui. Comme je disais tout à l'heure, au début, je suis partie avec du carton, parce que je me suis dit, il faudrait qu'on trouve une idée pour recycler nos déchets et pourquoi pas construire demain avec nos déchets et les utiliser comme matière première. Et donc, j'étais partie avec le carton. Et finalement, au bout d'un an de recherche, je me suis rendu compte que c'était pas forcément pertinent de recycler le carton, puisqu'on s'est déjà bien recyclé et toute la chaîne de recyclage du carton est déjà bien mise en place. Et donc, je me suis dit, quels déchets je pourrais compresser toujours sous forme de briques. Donc, j'ai regardé un peu autour de moi et je me suis rendu compte que l'industrie textile était une industrie extrêmement polluante et qu'en bout de chaîne, que ce soit les déchets textiles des citoyens ou des entreprises, on ne savait pas très bien recycler. Et il commence à y avoir des organismes de tri, mais souvent c'est pour de la seconde main et tout ce qui est abîmé, etc., on ne sait pas quoi en faire. Donc, je me suis tournée vers ce déchet qui est en quantité astronomique. Il me semble que c'est plus de 200 000 tonnes de déchets textiles par an en France. Et du coup, je me suis mis à faire des briques de textile pour pouvoir à la fois trouver un débouché à ce déchet et en même temps trouver un nouveau matériau qui est performant, utile, esthétique, qu'on peut utiliser pour nos aménagements.
Très bien. Et donc, justement, parce que dans la question du textile, bon, c'est sûr qu'on est en surconsommation totale et un des premiers messages qu'on a envie de faire passer, c'est réfléchissez avant d'acheter, est-ce que c'est vraiment nécessaire et surtout acheter de la qualité et pas de la fast fashion. Donc, moi, j'ai fait passer mon petit message, mais maintenant, la question, c'est effectivement, une fois qu'on a ce vêtement dont on ne veut plus sur les bras, il y a évidemment la première option, c'est s'il est encore en état, c'est de le faire entrer dans le circuit de la seconde main, ouais. Si possible plutôt dans des circuits de seconde main de l'économie sociale et solidaire plutôt que dans le système marchand. Donc on donne plutôt qu'on vend. Mais après, effectivement, vous êtes plus sur le segment de le tissu, enfin le vêtement dont on peut plus rien faire que de le jeter. Donc là, c'est justement pas le jeter, c'est d'en faire quelque chose. Et donc c'est ça que vous avez eu envie de faire. Alors évidemment, peut-être ce qui serait intéressant, c'est de revenir un peu quand même au début. Comment ça a démarré? Parce que il y a des, moi j'ai vu des petites images et vous nous m'avez raconté. Donc comment ça a démarré cette aventure?
Ça a démarré donc sur les bancs de l'école et ensuite donc j'en ai fait mon diplôme d'architecture. Donc je suis devenue architecte grâce à Fabrique. J'avais fait une installation dans le pavillon d'Arsenal à Paris avec 1600 briques pour prouver que ça pouvait marcher. Et ensuite, très vite, je me suis posé la question de ce que j'allais faire de ce projet en sortant de l'école. Et donc, j'ai monté la société pour me donner une raison de me lever le matin au départ parce que je n'avais pas du tout de modèle économique, je ne savais pas encore dans quoi je me lançais. Et très vite, j'ai eu la chance de recevoir une première commande donc, de la marque Jules, c'est une marque de prêt-à-porter pour hommes, qui refaisait tout son concept magasin. Et donc, je n'avais pas encore de local, je n'avais même pas encore de machine. C'était vraiment au tout début du projet version société. Et donc, j'ai sorti la première commande de Jules au fin fond du garage de mes parents, qui faisait que 20 mètres carrés. Donc, c'était un peu à l'étroit, mais je me suis fabriquée rapidement avec mon père une première machine pour pouvoir répondre à cette commande, qui était de 5000 briques quand même. Donc, j'ai passé l'été 2019 dans ce garage de 7h à 22h tous les jours pour pouvoir sortir les 5000 briques, puisque les ouvertures de magasin étaient début octobre. Et je pensais me reposer après avoir sorti ces 5000 briques. Et finalement, ils ont beaucoup apprécié le rendu. Donc, ils m'ont tout de suite repassé commande pour 12 000 briques, puis pour 25 000 briques. Je me souviens très bien du nombre de briques parce que du coup, ça m'avait impressionnée. Et donc, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec ces trois commandes-là qui ont lancé vraiment Fabrique. Et ensuite, j'ai ouvert mon premier atelier à Paris dans le 19e.
Et alors, juste... Tout au début, quand vous avez fabriqué vos 1000 premières briques, 1600, 1500 briques là au
pavillon,
ouais,
1600.
Vous les avez fait comment? Parce qu'il n'y avait pas la machine encore.
Je m'étais fabriqué une machine version 1 qui n'était pas très chouette mais qui fonctionnait bien. Et j'avais eu la chance d'être lauréate d'un concours qui s'appelle Faire Paris du pavillon de l'Arsenal. Et donc j'avais trouvé un sponsor et un promoteur immobilier qui m'avait prêté une surface dans le 5e arrondissement. C'était une surface qui était entre la démolition, enfin qui était dans un temps avant de le rénover, où ils ne pouvaient rien en faire. Et donc, du coup, j'ai fait ces premières briques dans le 5e, et avec une machine...
Et donc, à la main, enfin quasiment.
À la main, ouais. Oui, complètement. Les toutes premières, je les ai faites dans le sous-sol du pavillon de l'Arsenal pour ma recherche, avec vraiment une presse à briquettes. C'est une petite presse pour faire des briquettes en journaux pour mettre dans le feu, normalement, que j'avais acheté 2 € sur le Bon Coin. Donc, j'ai fait toute ma recherche avec cette petite presse à briquettes. Et ensuite, je m'étais fabriqué un moule en bois. Et c'est avec ce moule en bois que j'avais sorti les briques pour mon diplôme que j'ai exposé au pavillon.
Et c'est là que vous avez été repéré, j'imagine. Cette exposition au pavillon de l'Arsenal, c'est ça qui a fait démarrer les choses.
Oui, tout à fait. En fait, le fait d'avoir été lauréate de faire, j'ai pu exposer mon diplôme pendant 2 mois, tout l'été. Et à France 2 qui faisait un reportage sur ce concours-là. Donc on était 12 lauréats et j'ai eu la chance qu'ils me prennent moi pour illustrer le concours. Et en fait, j'ai eu la commande Jules grâce à ce reportage qui a été fait au pavillon. Puisque un des architectes qui travaillait pour le nouveau concept Jules m'a vu passer à 7h du matin sur Télématin. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une chance quand même, parce que tout le monde ne regarde pas la télé à 7h du matin. Et donc il a vu la brique exposée au pavillon et s'est dit pourquoi pas comme matériau pour le nouveau concept.
Bon, de quoi sont faites les choses, hein. C'est un Télématin, une brique, un pavillon, enfin voilà, c'est génial. Là, maintenant, vous en êtes donc ça y est, c'est lancé, vous avez vos commandes. Vous en avez beaucoup des commandes aujourd'hui?
Oui, j'en ai trop par rapport à ma capacité de production. Donc ça pourrait être un bon problème, mais ça reste un problème à régler. Donc oui, on a énormément de commandes, on a une centaine de clients en B2B par an, et on fait aujourd'hui 50 000 briques par an. Et on devrait en faire 100 000 si je voulais répondre à toutes les commandes.
Bon, on va en parler tout à l'heure. Alors, moi, je me posais la question de votre source,
Oui.
parce que pour fabriquer ces briques, le point de départ, c'est de récupérer du tissu en fin de vie, donc du tissu qui normalement part en
Oui.
destruction, enfin voilà, en traitement. Bon, d'ailleurs, le tissu, au passage, je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent, n'est pas un déchet comme un autre. On ne le met pas dans la poubelle. Il y a de la récupération
Oui.
qui est faite dans des bennes spéciales. Il ne faut pas jeter son tissu, puisqu'il y a ce qu'on appelle une REP, une filière REP. On a même un éco-organisme qui est chargé de ça, donc qui s'appelle Refashion. Donc vous, comment vous vous procurez votre tissu, votre matière première?
Ouais, on a 51% de nos commandes qui sont faites avec du tissu que je commande à un sous-traitant. Enfin, j'ai trois sous-traitants en réalité. Je travaille avec GBTex, Le Relais et Synergie TLC. Et du coup, c'est des organismes, comme vous le disiez, qui récoltent du textile. Donc, il y a plein de bornes dans la rue, dans toutes les villes en France, il y a des bornes dans lesquelles on peut mettre son textile. Et dans ces bornes-là, ça va être trié, ce qui va pouvoir être revendu, partir dans des associations, ou ce qui est en bout de chaîne, justement, qui est trop abîmé. Et donc, moi, je commande à ces sous-traitants pour pouvoir les recevoir triés par couleur sur palette, donc que les vêtements dits rebuts, qui peuvent pas être portés. Donc j'ai trois sous-traitants parce qu'ils ont trois systèmes de colorimétrie différentes. Donc je commande par exemple le blue jean à GBTex, le blanc au relais, et Synergie TLC a mis en place, grâce à Refashion d'ailleurs il me semble, des opérateurs de tri pour avoir des balles vraiment orange, ultra orange, bien triées, du vert, du bleu, etc. Donc ça prend vachement plus de temps parce que bah, on est très peu à s'habiller de couleurs. Donc pour avoir du orange, du jaune, du rose, c'est compliqué. Et 49% de nos... Donc l'autre partie de nos commandes, c'est directement avec le textile de nos clients. Donc ça va être des chutes de production, des vêtements qui ont des défauts de fabrication. Donc je travaille avec des marques de vêtements.
Par exemple, Jules.
Ouais,
Oui.
Jules, on faisait une collecte avec GBTex dans les boutiques, justement. Et on récupérait tout ce qui était abîmé. Parce que c'était encore trop tôt, c'était au début du projet, donc je récupérais pas encore leur chute de production. Parce que j'étais toute seule dans la société, donc je pouvais pas tout faire. Mais aujourd'hui, ouais, c'est ce qu'on fait. On récupère donc avec les marques de vêtements les chutes de production. Et on travaille aussi avec des marques comme L'Oréal, par exemple, ou Enedis. Et là, on va récupérer les vêtements des employés. Tous les ans, les salariés ont des packs de vêtements, donc soit les vendeurs en boutique. Enedis, c'était donc les vêtements de protection anti-décharge électrique. Et donc, tous les ans, ils en ont des nouveaux. Les anciens sont abîmés, ils n'ont pas le droit de les jeter. Et donc, nous, on les récupère et on crée leur aménagement avec leur propre textile. Donc, ouais, on est à peu près à 50-50 pour le fournisseur textile.
Oui, effectivement. Et donc, comme je vous avais rendu visite, j'avais vu les balles arriver quand vous les dépiautez, entre
Ouais.
guillemets. C'est vrai que c'est assez esthétique parce que c'est des tas de tissus complètement rouges ou des tas de tissus complètement bleus.
Oui.
Et tout ça fait vraiment de la couleur. Et alors, justement, après le process, alors je sais pas, vous vous arrêterez dès qu'on entre dans le secret industriel. Le process, c'est que après vous les déchiquetez, c'est ça? Vous avez une déchiqueteuse pour
Ouais.
transformer ce tissu en petits morceaux, c'est ça?
Ouais, c'est ça. On a un broyeur pour vraiment transformer le vêtement en fibre et la fibre devient vraiment notre matière première. Et on met les vêtements en entier dans le broyeur. Donc on ne vient pas du tout enlever les points durs, donc les boutons, les zips, etc. Ce qu'on fait dans d'autres solutions de recyclage textile. Nous, on met vraiment tout en entier. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a des boutons qui peuvent se retrouver en surface de la brique.
Parce que je signale, mais encore une fois, là, personne ne peut voir, j'ai une brique sur mon bureau qui m'a été offerte à l'instant, et dans la brique, il y a un petit bouton incorporé dans la brique. Donc c'est assez original, ça fait presque un œil. Donc après, vous avez bon votre process, vous compressez, vous mélangez, ça devient une soupe, hein, j'ai
Ouais.
vu ça, il y a une espèce de produit, c'est là où il y a le secret industriel, le produit qui vient faire ciment. Et à la fin, la compression et le séchage fait qu'on a cette petite brique qui sort. Et alors, c'est un module, la taille, c'est toujours la même. C'est votre Lego, de base, c'est celui-là.
Ouais, on peut faire du sur-mesure, mais ce qu'on vend le plus, c'est la brique qui fait 20 cm par 10 cm.
Ok. Et alors, qu'est-ce que vous en faites de cette brique? Parce que, en soi, c'est sympathique et c'est esthétique, mais on peut se dire, avec ça, je fais quoi? Donc, voilà, qu'est-ce que ça devient?
Ce qu'on fait le plus, je dirais que c'est 80% de nos projets, c'est du revêtement mural. Donc, c'est des briques qui sont toutes fines, elles ne vont pas faire plus de 2 cm. Et on vient revêtir un mur pour vraiment créer un mur œuvre. Donc, c'est complètement esthétique. Et en plus, ça apporte une qualité acoustique puisque les briques sont un très bon absorbant acoustique. Et donc, ça vient considérablement améliorer la qualité acoustique d'un espace en plus de le décorer.
Ça, je l'ai vu effectivement. Donc, ça, c'est une option, un mur qui est décoratif et oui, acoustique.
C'est ça. Et après, avec des briques plus épaisses, donc comme celles que je vous ai offertes, on peut créer du mobilier, donc des assises, des lampes, des bibliothèques, puisque la brique est extrêmement résistante structurellement. On l'a fait tester en test en laboratoire il n'y a pas longtemps pour essayer de la casser. Je ne sais plus comment ça s'appelle le test, mais elle a résisté à une pression de 9,6 mégapascales. Donc ça correspond à un parpaing d'une classe B80, donc classe moyenne, donc un parpaing en béton. Donc c'est assez résistant. Et donc dès qu'on vient faire de l'épaisseur, donc 5 cm ou 10 cm, on va pouvoir créer du mobilier où toute la structure est faite vraiment avec les briques.
Et comme vous venez de dire que ça a la résistance d'un parpaing de béton, ça pourrait demain devenir un matériau de construction ?
Ça serait l'aboutissement le plus chouette que pourrait avoir le projet, puisqu'au départ, quand j'ai fait ma recherche à l'école pour mon mémoire d'archi, l'idée c'était vraiment d'aller construire avec un parpaing en textile. Le chemin le plus facile pour y arriver, c'était de commencer par le design et l'aménagement intérieur parce qu'il y a moins de restrictions et il y a besoin de moins de financement aussi au départ. Puisque dès qu'on va aller dans la construction, les tests en laboratoire, ça va vraiment pas être les mêmes. Il en faut beaucoup plus, qui sont beaucoup plus coûteux et la R&D va durer beaucoup plus longtemps. Pour aller sur le design, il m'a fallu une R&D de un an et demi. Pour aller dans la construction, ça va plutôt être 10-15 ans. Donc c'est un peu plus long, mais j'espère qu'un jour on arrivera à faire un matériau vraiment extrêmement robuste et je pense qu'on a le potentiel pour.
Et peut-être, puisque moi je suis élu et on essaie d'avoir des réflexions sur les politiques publiques qu'on peut mener, on vous aide d'ailleurs parce qu'on croit ce genre de projet qui, comme je l'ai dit, participe de la transition écologique. Quels sont aujourd'hui, dans le parcours que vous avez eu du début jusqu'à aujourd'hui et encore, c'est pas fini, il y aura une suite, j'en suis sûr, on va en parler après. Mais depuis le démarrage, quelles ont été les difficultés que vous avez connues, les financières, mais aussi administratives, réglementaires? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que l'idée, c'est que derrière, si d'autres veulent faire comme vous, pas exactement le même sujet, mais des choses innovantes comme ça, quels sont les points sur lesquels il faut qu'ils soient vigilants?
J'en ai beaucoup.
Allez-y, c'est le moment.
Je pense que tout le parcours, là, ces 6 dernières années, n'a été que difficulté. Dès qu'on arrive à en régler une, il y en a une autre qui arrive. Donc je dirais que la toute première difficulté, c'était financier, évidemment. Puisque donc quand j'ai eu la commande Jules, la brique, elle n'existait même pas encore vraiment. C'était vraiment un prototype. Et pour mettre un matériau dans un établissement recevant du public, il faut qu'elle soit certifiée à la réaction au feu. On ne peut pas mettre n'importe quoi comme matériau. Donc déjà, moi, là, j'y connaissais rien du tout. Et donc, j'ai dû apprendre très vite ce que c'était un laboratoire et comment on fait passer des tests, trouver des financements pour payer ces tests-là, payer la première machine, etc. Donc, pour les financements, je suis allée d'abord sur la campagne de crowdfunding. Donc, j'avais réussi à récolter 10 000 euros avec Kiss Kiss Bang Bang, qui savait payer la première machine et le test au feu, justement. Et du coup, déjà, pour cette première difficulté, je pense qu'il faut être quelqu'un de très curieux, parce qu'il faut se renseigner partout, il ne faut pas se laisser démonter, parce que vraiment, moi, par exemple, le CSTB, qui est le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, qui accompagne pour les tests en laboratoire, je ne le connaissais pas du tout avant de me renseigner pour ce test au feu. Donc, il faut chercher partout, poser plein de questions et chercher beaucoup sur Internet aussi, qui était mon meilleur allié au début du projet. Donc, déjà, faire passer le test au feu, ça, c'était extrêmement stressant puisque c'est 6 à 8 semaines de délai. Et moi, j'avais reçu la commande Jules et j'avais plus que 2 mois pour la produire. Et donc, j'avais calculé le 5000 briques divisé par 2 mois. Il fallait que j'en fasse tant par jour, en 7 jours sur 7. Donc, j'avais pas le temps d'attendre le résultat de la réaction au feu.
Un vrai pari, quoi.
Voilà. Et du coup, j'ai commencé, je suis obligée, de toute façon, je peux pas attendre. Donc, j'ai commencé la production tous les jours. Et je me suis dit, à tout moment, je reçois le test de réaction au feu avec la composition que j'ai fait il y a 6 semaines. Et c'est pas bon. Et c'est-à-dire que toute la prod que je viens de faire ces 7 dernières semaines, je dois la jeter à la poubelle. Et donc, c'était une vraie épée Damoclès d'avancer comme ça. En même temps, j'avais pas trop le choix. Et heureusement, le test est arrivé. Il fallait, en gros, ça va de M0, c'est le meilleur, à M6, c'est le pire. Et il fallait être M3 grand minimum. Et j'étais M3. Donc là, grand soulagement. Et je saurais même pas dire comment j'ai réussi à être M3 dans les ingrédients de la colle, que j'ai pas dit, mais qui est vraiment 100% écologique. Il y a que 3 ingrédients, un biosourcé et 2 minéraux. Ça, c'était vraiment l'envie du projet depuis le début, de absolument être écologique et pas faire du greenwashing. Mais du coup, mettre des ingrédients écologiques, ça fait que ça peut être terrible en tenue au feu, surtout avec du textile, donc c'était un peu stressant. Donc ça, c'était le premier gros pari et le premier verrou à lever. Et ensuite, dans les années qui ont suivi, je dirais que ça continue d'être ces tests en laboratoire, parce que les clients voulaient de plus en plus de certifications pour l'acoustique, la thermique, les COV. Donc pareil, j'apprends à chaque fois que je fais passer des nouveaux tests. Et faire passer des tests, ça veut dire envoyer des briques à la destruction. Et donc, on est déjà au max de sa capacité de production. Faire 10 mètres carrés pour les envoyer se faire brûler, ça fait un peu mal au cœur et ça fait perdre du temps surtout. Donc, c'est toujours ce jeu entre le temps, comment on dépense son argent, tout en répondant aux commandes des clients en même temps, tout
et pardon,
en recrutant une équipe.
Qui, parce que le feu, là, ça, c'est imparable, c'est une obligation réglementaire. Oui. Les autres points de vérification que vous avez fait, c'était aussi du réglementaire ou c'était des demandes des clients ?
C'était des demandes récurrentes des clients, mais par exemple pour les COV, donc c'est pour tester si ça ne rejette pas de composants organiques volatiles dans l'air. Ça me permettait de prouver que c'était vraiment écologique, parce que souvent, quand je disais que c'était écologique, on ne me croyait pas, on me disait que je mettais de la résine dedans et que du coup, c'était un peu du greenwashing. Donc le test COV, je l'ai fait assez vite pour prouver quand même que ça ne dégageait pas de mauvais composants dans l'air ambiant d'une pièce. Et après, acoustique, c'était encore pour prouver quelque chose. Mais comme je faisais de la décoration et de l'aménagement intérieur, on me disait souvent « mais c'est que de la déco ». Et à force d'entendre ça, moi, j'étais un peu vexée parce que il faut bien commencer quelque part. Et souvent, les gens qui me disaient ça, je me disais, ils n'ont jamais fait de projet, c'est pas possible, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il faut y aller étape par étape. Et donc, le côté acoustique, je l'ai fait pour prouver qu'au-delà d'être de la déco, c'était aussi un matériau performant. Donc, c'était de la balance entre pouvoir accéder à de nouveaux marchés, parce que si je dis que c'est acoustique, du coup, je peux aller sur d'autres marchés. En même temps, rassurer ma clientèle que c'est performant, me rassurer moi sur le fait que mon matériau quand même est performant et avancer et pouvoir répondre à de plus en plus de commandes. Et donc je pense que les principales difficultés, ça a été ça sur tout le développement du projet, c'était prouver que le matériau était bien, donc faire passer des tests, pouvoir répondre aux commandes, donc faire grossir le projet. J'en suis à ma 5e version de machine quand même en 6 ans, donc j'ai fait grandir tout le temps grâce à des financements, grâce aux commandes des clients. J'ai déménagé 4 fois pour grossir de plus en plus. J'ai dû déposer un brevet aussi, donc ça, c'était encore un monde complètement inconnu, tout ce côté juridique. J'ai posé un brevet en France et en Europe, donc c'est inconnu, ça prend du temps et ça coûte de l'argent, donc c'est toujours les mêmes verrous techniques à lever. Et ensuite, une grosse difficulté, ça a été le moment de recruter une équipe. Là, c'est dur de tout faire tout seul, mais au moins, quand on compte que sur soi, on va vite. Et si on ne veut pas dormir, on choisit de ne pas dormir, c'est son problème. Mais il y a un moment où le projet devient vraiment trop gros, donc j'ai commencé par recruter des briqueurs. Donc c'est un nouveau métier que j'ai inventé. Et pour pouvoir me soulager sur la prod, parce que vraiment au début, je faisais tout le commercial, le marketing, la communication sur Instagram et LinkedIn, et je faisais des briques toute la journée, le site internet, etc. Donc les briqueurs, ensuite j'ai recruté une ingénieure, et ensuite j'ai recruté une partie design aussi. Donc aujourd'hui on est 10 dans l'équipe. Donc il y a la partie recrutement, la partie former l'équipe, et ensuite tenir l'équipe dans le temps, et ça c'est vraiment, parfois c'est difficile. Le côté humain dans un projet est assez compliqué, et eux, je peux pas leur demander de travailler plus de 7 heures par jour, donc moi je me fais encore des journées de 10 ou 12 heures par jour pour pouvoir combler tout ce qu'il faut faire à côté. Donc ça c'est une grosse difficulté aussi. Et enfin, je dirais que la difficulté qui surplombe un peu ces 6 dernières années, c'est le fait de faire de l'innovation. Ça, je m'en étais pas rendu compte, j'ai réalisé que l'année dernière que c'était ma principale difficulté. Puisqu'en fait, quand on invente un matériau ou un produit, comme personne ne l'a fait avant nous, la machine n'existe pas, le marché n'existe pas. Moi, mon liant dont j'avais besoin pour le textile, je l'ai inventé aussi parce qu'il n'existait pas. Et du coup, bah, même le système de vente, convaincre quelqu'un d'acheter une brique entière et c'est recyclé, c'est assez particulier. Et en fait, à chaque fois que j'avance, il faut que j'invente des nouveaux systèmes ou des nouvelles machines ou que je prenne des machines. On s'inspire beaucoup de l'industrie agroalimentaire finalement et on vient modifier des machines, etc. Et en fait, ça fait perdre un temps de fou. C'est vraiment impressionnant. Et dès qu'on veut changer quelque chose, ça se répercute sur autre chose et là, il faut aller inventer encore autre chose dans un autre coin qu'on n'avait pas pensé. Et donc finalement, innover. Parfois, je regrette un peu d'être partie là-dedans, parce qu'au départ, j'étais très fière d'innover. Et en fait, aujourd'hui, parfois, je suis fatiguée d'innover et d'être la seule d'être partie dans ce chemin-là. Parce que du coup, on essuie les plâtres constamment, donc c'est très chronophage.
Et dans tout ça, c'est impressionnant, hein, parce que ça demande à la fois de la ténacité, du courage, de la détermination, enfin toutes les qualités qu'on voit bien qui sont chez vous. Vous avez trouvé des appuis, des aides, ou vous êtes senti complètement seul?
Non, j'ai trouvé je me suis pas du tout trouvée seule. Je me suis trouvée seule dans la partie développement, mais pour le financement, c'est vrai que dès que j'ai commencé à mettre le nez dedans un peu, je me suis rendu compte qu'il existait vraiment beaucoup de choses. Et donc au début, donc j'avais fait la campagne de crowdfunding. Après, j'avais eu une subvention de la BPI, qui s'appelait le PIAFAB. Je ne sais pas s'il existe encore, mais j'avais ça. Je sais que c'était 30 000 euros, mais j'avais dû rembourser 10 000 parce que j'avais pas dépensé assez. Ça, j'ai compris à ce moment-là comment fonctionnaient les subventions. Parce qu'en fait, j'avais pas assez de trésor moi, donc finalement, j'avais pas dépensé assez d'argent. Mais donc, ils avaient quand même financé 20 000 euros sur la deuxième machine. Ensuite, j'ai été financée par ReFashion, où là, j'ai quand même eu la chance. À ce moment-là, c'était la plus grosse subvention que j'avais eue, c'était 90 000 euros. Et en même temps de tout ça, je participais à beaucoup de concours d'idées. Et j'ai eu la chance de souvent arriver première ou dans les trois premiers. Et donc, du coup, j'ai eu des 2 000 euros, 4 000 euros par-ci par-là. J'avais été lauréate de Start in ESS, Petit Poucet aussi, Faire, le prix Gabriel, c'était 10 000 euros, c'était quand même pas mal. Et ensuite, du coup, j'avais la subvention de la Région Île-de-France pour quand on avait fait avec Mathieu Lucasi de Gobuse le recyclage des masques. Donc, lui, il est spécialisé dans le recyclage des déchets industriels. Et avec lui, du coup, on s'était demandé si on pouvait pas faire des briques avec les masques suite au Covid. Et ça avait bien marché. Et donc, lui, il s'occupait de toute la partie collecte et désinfection. Et donc, moi, je faisais les briques derrière. Et donc, on avait une subvention qui était l'AMI, j'appelle l'AMI masque, mais c'était pas ça le vrai nom. Et ensuite, j'ai levé des fonds avec un business angel. Donc, qui a pris des parts dans la société. Donc, ça, c'était la première fois que je vendais des parts de la société en 2021. Et là, l'année dernière, on est reparti en levée de fonds. J'avais BNP Paribas aussi qui m'a accompagnée au moment de cette levée de fonds. Donc, ça fait quand même beaucoup, hein. J'ai quand même eu la chance d'être bien accompagnée. Et l'année dernière, du coup, on est parti dans un gros projet où là, il fallait beaucoup de subventions et de financement. Donc, j'ai refait une levée de fonds. Mon business angel historique a racheté des parts encore pour remettre des fonds dans la société. Et où là, on a eu notre plus grosse subvention de tous les temps, du coup, avec la région, avec le dispositif PMUP, que d'ailleurs je remercie vraiment parce que c'était hyper simple. De toutes les subventions qu'on a demandées depuis le début du projet, c'est toujours des dossiers très compliqués et très longs. Et là, avec Chantal, qui est mon ingénieur, on a vraiment apprécié de faire ce dossier-là parce qu'il était vraiment simple. Et depuis, c'est super fluide en plus pour recevoir la subvention par tranche. Et donc là, on en est là, on est en plein nouveau projet industriel avec cette subvention.
Alors justement, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, j'ai deux questions. La première, c'est, vous avez dit que vous avez eu beaucoup d'aides financières, vous en avez trouvé un certain nombre, dont celle de la région. Le modèle économique vers lequel vous allez, est-ce que c'est un modèle économique qui va voler de ses propres ailes ou est-ce que, selon vous, ça ne marchera que si vous continuez de pouvoir disposer d'aides?
Non, ça c'est censé pouvoir voler tes propres ailes. Les 2 premières années, j'étais rentable. J'étais rentable au bout de 4 mois d'exercice. Donc les 2019 et 2020, j'ai fait des très bonnes années, très rentables. Et après 2021, j'ai commencé à faire de l'investissement. Donc là, il y avait forcément plus de charges que de rentrée d'argent. Et donc depuis 2021, on est en négatif et on survit grâce aux aides à la banque et à mon business angel parce que justement, on est en pleine R&D et ça demande énormément de dépenses. Et en plus de faire grossir l'équipe, ce qui est aussi une grosse dépense. Et tout l'enjeu de cette année 2025, c'est de retrouver l'équilibre. J'ai tapé dans la main de mon investisseur pour lui promettre que cette année, on allait être à l'équilibre, donc pile autant de chiffre d'affaires que de charges, pour être rentable l'année prochaine en 2026.
Et donc justement, tout à l'heure, vous disiez, j'ai un carnet de commandes qui dépasse mes capacités. Alors, est-ce que vous envisagez de grossir encore, de grandir encore?
Oui, là l'idée c'est de capitaliser sur la surface qu'on a dans le 19e parce que j'ai fait un gros chantier d'aménagement en 2021-2022. Et donc l'idée c'est de grossir mais toujours dans cette surface. Donc pas de grossir en surface en mètres carrés, mais probablement passer peut-être en 2,8 pour faire tourner l'atelier 2 fois plus. Comme ça laisse les mêmes charges fixes mais on produit plus. Et d'améliorer la machine dans laquelle on avait investi il y a 4 ans pour qu'elle puisse faire plus de briques. Et en gros, l'idée, c'est de passer de 200 briques jour à 500 briques jour avec ce système, mais amélioré.
Bon, bah très bien, bah on arrive à la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Clarisse,
Merci
pour
beaucoup.
Voilà, cet exemple concret de réalisation de briques. Et je garde celle que vous m'avez offerte sur mon bureau précieusement avec son bouton. Voilà, vous avez écouté un nouvel épisode de Concret, le podcast qui met en lumière des solutions pour une écologie positive. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre écoute.